I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. À quoi ça tient l'amour au fond? Quand on aime vraiment, on se dit que l'amour est gravé, que notre histoire dépasse l'entendement, qu'elle est éternelle, et puis tout s'éteint. Tout est oublié, parfois à cause d'un geste. Alors on se dit, l'amour ne se loge que dans le cerveau? Est-ce qu'il n'est que chimique, que mécanique? L'histoire de Julien nous prouve que non. L'amour, le vrai, il est toujours tapis quelque part.
Je m'appelle Julien. Je viens de naître d'une première union, c'est comme ça qu'on dit, entre mon père qui est originaire du Loir-et-Cher, d'une commune appelée la Motte-Beuvron, et d'une mère qui est le fruit d'une immigration italienne toscane il y a 3 générations, puisque nous avons nos ancêtres qui ont quitté Santa Croce sul Lurno pour venir à Marseille. Je suis élevé par mes parents ensemble pendant 3 ans, puisque 3 ans après, je crois, il me semble, entre 3 et 4 ans, ils prennent la décision de se séparer, un divorce. J'ai la chance d'avoir du coup 4 frères et sœurs qui me rejoignent, 2 frères et 2 sœurs, à savoir un de chaque côté, un de chaque genre, du côté de mon père et du côté de ma mère. Je suis élevé dans un cadre très protecteur, aimant, bienveillant. J'ai l'impression de ne manquer de rien. J'ai de l'amour, j'ai du temps, j'ai de l'affection. J'ai des loisirs, je pratique du sport, je vais à la mer, j'ai des amis, je suis plutôt actif. Et j'ai des facilités, j'ai somme toute des facilités à l'école. Je travaille juste qu'il faut ou peu, diront certains. Et puis, il y a un moment quand véritablement il faut travailler. Et bien, je ne travaille pas vraiment, je ne fournis pas les efforts qu'il faut, et notamment en terminale, où je fais le choix plutôt de me concentrer sur mes amitiés, sur ma bonne bande de potes, et je me mets clairement à faire beaucoup plus de rollers qu'il le faudrait, beaucoup plus que de raison, et à ne pas travailler. Et donc, somme toute, naturellement, je rigole beaucoup, je m'amuse beaucoup. Je passe mes nuits dans les rues de Marseille avec mes amis, et je travaille clairement pas suffisamment, et ce qui doit arriver arrive. Je rate somme toute logiquement mon bac, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que je suis pas du tout mature pour aller en école supérieure, je suis pas du tout mature pour aller à la faculté, et je pense que rater ce bac est la meilleure chose qui me soit arrivée. Après avoir raté une première fois le bac, je change d'établissement scolaire, je change de lycée. Je vais dans un autre environnement, et cette fois-ci, je me mets davantage à travailler. Je ne vais pas réitérer la même erreur, et j'obtiens mon bac, bien évidemment, sans trop forcer. Aucune mention, si ce n'est celui, vous l'avez, c'est bon. Du coup, je suis à la faculté, et je passe un master 1 et un master 2, après pour obtenir un diplôme en prévention des risques et des nuisances technologiques. Je recherche donc du travail par la suite. J'arrive peu facilement à en trouver dans mon domaine. Je prends des petits boulots, des petits jobs, des inventaires qui me permettent bien évidemment de m'apporter un peu d'argent. J'ai la chance d'avoir mes parents qui m'accueillent et chez eux. Clairement, je suis un peu dans une situation de tanguy. Et j'ai, je crois, 25-26 ans quand finalement... Un employeur croit en moi, et il n'a pas tort de croire en moi. Il me fait une proposition d'un job, d'un poste sur Paris, à la capitale comme on dit, et de rejoindre son entreprise. Donc je débarque avec perte et fracas sur Paris, avec plaisir, d'indigne et un peu d'excitation, mais quand même... Un peu d'inquiétude à cette grande capitale qui accueille pas mal de provinciaux auxquels j'appartiens. Je découvre ce qu'est la vie en Île-de-France, loin de mon cocon, ma vie levée au soleil et préservée dans mon entourage familial, clairement avec beaucoup d'espace et beaucoup de protection. La vraie vie adulte de ce que peut-être pour certains est ce qu'elle était pour moi une jungle parisienne. mais quand même clairement avec beaucoup d'avantages, puisque je débarque à Paris dans un quartier qui bougeait déjà pas mal à l'époque, qui se transformait, c'était en 2005 sur Paris, le quartier du Sentier, Montorgueil, avec beaucoup d'engagement professionnel, mais aussi beaucoup de sorties et beaucoup de fêtes dans ce quartier qui dormait jamais et moi aussi qui dort peu à ce moment-là et qui fait beaucoup la fête avec mon coloc, quelque sorte du mardi au dimanche. Donc c'est une vie très festive que je mène jusqu'aux alentours de 2008 ou 2008. Je rencontre en fait par l'intermédiaire de mon coloc une jeune femme qui a fait l'école ou termine l'école hôtelière de Lausanne et qui devient donc en 2008 ma compagne. Je suis dans une relation sans attachement avec cette jeune femme que je rencontre pendant quelques mois. Et puis, par la suite, au bout de 6 mois, ça devient assez sérieux où on a des sentiments qui se développent. Et puis, elle décide de se jeter à l'eau. Elle rend l'appartement dans lequel elle est, ce qui est pour moi assez rapide sur le coup. Et puis, je me dis pourquoi pas, bah, viens à la maison. Donc, elle s'installe dans l'appartement que j'ai au niveau de Montorgueil. Et puis on vit ensemble dans ce petit nid qui le note, qui devient assez rapidement un peu petit et un peu exigu pour la vie qu'on commence à mener. Donc on déménage, on quitte le deuxième pour le 7e arrondissement de Paris, et on se retrouve sur la rue de Saxe dans ce qui est ce que j'appelle moi quand même un espace assez privilégié sur Paris. Et je me retrouve dans un fonctionnement qui est clairement celui d'un projet familial, de faire des enfants et de s'engager sur quelque chose qui soit peut-être davantage sérieux. En tout cas, quelque chose qui soit celui d'une vie clairement d'adulte où on laisse de côté un peu le côté fêtard et on construit quelque chose de différent, mais aussi tout aussi intéressant et enrichissant. On fait une grande bond, je crois que ça doit être en 2011, de 2010, de s'installer plus durablement et de parler de projet, c'est-à-dire de projet de construire une famille et d'avoir des enfants, et donc ça se concrétise en 2012, puisqu'on a du coup notre premier enfant qui arrive à l'été. Et c'est un ravissement pour elle, c'est une très très belle surprise, mais c'est une très très belle chose aussi pour moi, puisque j'ai le désir assez fort d'être père, d'être papa, depuis pas mal d'années, et qui se concrétise là avec cette femme, et du coup qui représente pour moi une autre culture, puisqu'elle est d'origine suisse italienne, et on a un enfant qui naît, qui a une double nationalité et que nous éduquons dans une double culture française et également la sienne, et qui commence à parler français, qui commence aussi à parler italien. Pendant cette période-là, je suis plutôt investi professionnellement, mais aussi d'un point de vue éducatif, puisque j'ai la chance, c'est pas la chance, vraiment la chance de pouvoir amener notre enfant à la crèche le matin, le récupérer le soir, pendant qu'elle était sur des horaires, on va dire, un peu plus étendus, c'est un choix qu'on avait fait, où elle était un peu plus investie professionnellement, donc j'assure sur ses premiers mois ou ses premières années une présence assez importante et une relation très très belle qui se crée avec mon fils. En 2015, on a fortement envie d'avoir un deuxième enfant et du coup, ça arrive puisque de manière concomitante à une prise d'un nouveau job, puisque je prends le job de DRH sur un périmètre à Paris assez important. J'ai la chance d'apprendre avec du coup à ma compagne qu'il est enceinte, donc nous attendons une petite fille, c'est ça en 2015, et on mène de front du coup un déménagement, l'arrivée de cet enfant qui nous ravit. Moi, ce job qui est assez prenant et qui me stresse pas mal, sur lequel je m'investis beaucoup, je fais des tours de cadran et je suis assez fatigué. Mais en fait, tout va plutôt bien quand même, puisqu'on est, on est heureux. Le premier enfant, notre fils, est en pleine santé. Son arrivée avait été compliquée et sans inquiétude, parce qu'on avait risqué de le perdre. Mais au final, il se développe très bien, il est hyper intéressant. On est deux parents qui s'aiment et qui avons beaucoup d'amour pour cet enfant. On peut dire enfant chéri. Et on est au printemps de 2015, on devrait être au mois de mai. On part dans une pause qu'on fait et qu'on s'accorde en Toscane. On est dans un agroturismo, comme on dit, toscan. Et c'est ce que j'appelle, moi, mon premier incident de parcours de vie, parce que ça arrive à certains. Et moi, j'ai un premier incident de vie, un premier incident de parcours de vie, puisque en Toscane, en fait, m'accompagne alors enceinte de 5 mois, m'annonce qu'elle en a marre de Paris qu'elle en a marre de sa vie, qu'elle en a marre de moi, qu'elle ne m'aime plus, qu'elle veut quitter la France et rentrer au plus proche de sa famille, de ses parents, dans son pays, en Suisse, pour changer de vie et partir accoucher là-bas et surtout partir avec notre enfant qui à l'époque avait 3 ans. Je n'ai rien vu venir. Peut-être que je me refuse à voir les signaux en banque courante, mais en tout cas pour moi factuellement, comme je l'ai dit, on coche toutes les cases de la famille en or. Des bons jobs professionnels, bon quartier, la réussite, en bonne santé, des parents qui sont là. Je crois que je ne suis pas capable de voir que peut-être quelque chose ne va pas. Mais en tout cas, on a fait le choix de déménager, on a fait le choix de prendre des tournants perso, pro et familiaux concertés. Et c'est arrivé de la petite, pour nous, est un choix, c'est pas une erreur, c'est pas ce qu'on appelle un baby pigle. Et en fait, je découvre au printemps, dans cet agro-tourisme, au matin, où je sens que quelque chose ne va pas, où j'insiste pour essayer de comprendre pourquoi cette mauvaise nuit pour ma compagne est peut-être plus qu'une simple mauvaise nuit, qu'on a tous et chacun. Et je vois une petite larme sur le coin de sa joue, et elle me répond « Non, c'est pas grave, il n'y a rien de grave ». Et j'insiste et je force, et au final, elle se met en sanglots à me dire je n'aime pas ma vie, je n'aime pas Paris, et je ne t'aime plus depuis des mois et je veux te quitter et je veux changer de vie. Voilà. Donc c'est quelque chose que je pense ne pas avoir vu et que je découvre comme ça et je suis sur le coup totalement anéanti. En fait, à ce moment-là, je remarque qu'on en trouve exactement dans la même position dans laquelle j'avais surpris moi-même enfant en 3 ans mon père à la séparation de mes parents. Et je suis en train de vivre exactement, pas le plus grand cauchemar, mais une de mes craintes que j'avais étant enfant et la crainte que j'avais en étant adolescent, adulte et qui me motivait dans cette envie, je pense, d'être père et d'être papa, de ne pas faire revivre mon enfant exactement ce que j'avais vécu. Mais donc là, sur ce moment, j'ai l'impression par transposition, vous avez fait vivre à mon fils de 3 ans ce que moi-même j'avais vécu, qui pour moi était mon petit drame, la séparation de mes parents au même moment, au même âge. Et cette nouvelle, qui pour moi est vraiment nouvelle, puisque je refuse de voir les choses, je ne suis pas capable de voir les choses, j'ai la mère de mes enfants qui me dit je vais vivre ailleurs et je sens un déchirement, puisque moi, clairement, sur le coup, c'est on m'enlève mon fils et on m'enlève une petite fille que je ne connaîtrais pas. Ça met ce moment dévastateur. Et en fait, je fais la décision de faire des efforts pour tenter de sauver mon couple, même si je découvre que dans le projet de vie, une nouvelle vie de ma compagne, il y a quelqu'un d'autre qui existe et qui est dans son pays natal et qui est là pour projet de le rejoindre et que ces derniers militent pour qu'elle puisse assez rapidement quitter le territoire français, même si elle est enceinte de ma fille et même si il y a un fils auquel je suis très attaché qui est en jeu. Alors, pas qui est en jeu lui-même, mais qui a une relation, un père-fils qui a été en jeu là-dessus. Et puis assez rapidement, quand je me rends compte que j'accepte que le couple ne doit pas être sauvé parce que le couple est fini, je me mets dans un mode qui est un mode, je vais pas dire guerrier, mais je vais dire suffisamment belliqueux, pas dans un terme de violence, mais belliqueux d'un point de vue juridique, puisque je me dis, un enfant qui quitte le territoire et qui par ailleurs à l'étranger, bah, t'as intérêt à t'activer mon faux couple. Donc je me rapproche de l'association SOS Papa qui est dans le 15e arrondissement à Paris et par quelques rendez-vous et je vais prendre conscience qu'il faut très rapidement que je me blinde et que je prenne l'initiative en fait d'un point de vue juridique de faire en sorte que la mère de mes enfants n'ait pas le droit de quitter le territoire français parce que sinon ça serait très compliqué après. Parce qu'une fois que la mère ou le père quitte le territoire, ben, les droits sont très compliqués à faire valoir et surtout dans ce pays. Qui s'appelle la Suisse. Nous sommes donc en octobre 2015 et une décision de justice est rendue qui n'est pas favorable. La justice a décidé du coup que la mère de mon fils, je dis pas des enfants puisque légalement étant enceinte, notre fille n'était pas reconnue, du coup a le droit de quitter le territoire français et du coup mon fils part vivre en Suisse et mon ex-compagne part vivre et accoucher en Suisse, qui est pour moi quelque chose de très dur à vivre. C'est une décision et des conséquences qui me mettent dans une spirale particulièrement négative et très, très, très dure à vivre. Du coup, je me mets à corps perdu dans mon job, dans le boulot. Je me replie sur moi-même, quel que soit l'accompagnement qu'on ait, le soutien qu'on ait, familial, des amis. On est toujours seul face à sa peine. Et donc, je travaille plus que deux raisons sur des amplitudes horaires assez fatigantes et très peu de vacances. Et c'est quelques mois qui sont assez délicats pour moi et durs, où j'apprends une relation à distance pour mon fils. À l'automne de 2015, je reviens pour la première fois du coup en Suisse, puisqu'en novembre, ma fille est née, notre deuxième enfant est né. Et ce moment qui est un moment extraordinaire, qui est un très beau moment, qui est un moment des plus joyeux dans ma vie, je suis en train de réaliser en fait que c'est un des moments qui est plus dur, qui est plus triste, puisque je me rends compte que ma fille qui était désirée, je sais que je vais avoir du mal à être présente pour elle telle que je voudrais l'être. Et c'est encore le petit enfant là sur le moment qui parle, qui est plein de tristesse. Et je lui dis à la fois bonjour et je suis en même temps aussi en train de dire un peu adieu, une relation fantasmée et il y a quelque chose de fort que j'imagine avec ma fille et je sais que ça va être très très dur sur le moment pour qu'on puisse construire quelque chose. Donc c'est très dur à vivre. Je pense que je suis dans une reconstruction qui passe par le conflit, qui passe par l'idée de mener une cause, qui est la cause, sans genrer, j'en suis désolé, mais qui est la cause des papas. C'est-à-dire que je me sens comme un papa floué, je me sens comme quelqu'un qui est victime d'une erreur judiciaire, je me sens comme quelqu'un qui a affaire à une justice légale mais immorale, je me sens comme quelqu'un qui doit se battre pour lui, qui doit se battre pour le petit enfant qu'il était, qui doit se battre pour... le père qu'il a eu et qui lui-même n'a pas eu son fils aussi souvent qu'il l'aurait aimé, qui se bat pour les autres pères, et je me jette à corps perdu là-dedans, en continuant à travailler de manière totalement harassée, en étant accompagné à ce moment-là par une femme que j'ai rencontrée dans l'ancienne tourmente, qui était là, qui était un grand soutien, mais pour laquelle j'étais pas du tout investi, et qui m'a beaucoup soutenu, et je suis, je crois, quasiment exclusivement un père en combat, jamais sans mon fils, jamais sans ma fille. Et je me refuse à être un amant, je me refuse à être un vrai copain, un vrai ami, parce que je suis, je pense, complètement pollué par cette cause qui est la mienne, à savoir défendre mon droit de père. Et je crois que ça m'empêche de vivre, et je ne pense qu'à ça. Et je vais de déconvenu en déconvenu, jusqu'à accepter accepter de manière salvatrice pour moi en 2018, 3 ans de conflit, je suis en 2018 là, à accepter un mauvais accord. Voilà, je crois qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Et de guerre lasse, parce qu'il faut me sauver, parce que je pense que je suis très fatigué. Je n'accepte de baisser les armes et je jette les armes au pied de la partie adverse et je fais énormément de concessions dans l'espoir de me sauver et de sauver ce qu'il y a dans le temps que je peux passer avec mon fils. J'espère passer avec ma fille et j'accepte en 2018 de me sauver et laisser de côté tout ça. Et du coup, je m'autorise à vivre, c'est-à-dire je m'autorise à ne pas systématiquement prendre des décisions qui se font par le prisme de mon fils à l'étranger, de ma fille à l'étranger. Je suis quand même toujours très investi, c'est-à-dire que je fais des voyages, des allers-retours pour aller là-bas, je prends mes avions, je prends mes trains, je bouffe ces voitures, je bouffe ces hôtels pour aller passer ces 48 heures avec ses enfants. Mais je me dis, voilà, ressaisis-toi, rends-toi disponible pour toi-même. Et là, je me remets à remonter du monde de manière assez légère, frivole, on peut dire ça, je lui multiplie les rencontres, d'aucuns diraient les conquêtes. Et puis, dans toutes ces rencontres, pleines de légèreté et de surlendemain, en fait, grâce aux applications, j'ai un match avec une femme qui me ferait très intéressante, que je rencontre en juin 2019 dans un brunch. Je vois arriver une jeune femme pétillante, une fille des Antilles, bien apprêtée, plutôt smart, un grand sourire, des grandes lunettes, et moi je l'attends, elle arrive avec un peu de retard, comme toujours je crois, et je suis en plein soleil, j'essaie de garder un certain aplomb, je transpire et je suis vraiment avec beaucoup de retenue en train d'essayer de ne pas me décomposer au soleil, et puis je la vois arriver pétillante, elle a un séjour à l'étranger, on s'embrasse, et puis là j'ai les jambes qui tremblent, et puis je lui dis de s'installer, et puis heureusement qu'on s'installe parce qu'elle me... cette jeune femme me trouve. Elle s'appelle Jaël. J-
j'ai envie de l'envoyer, mais les usages sur cette application, c'est que généralement, il faut pas montrer que t'es intéressé. Il faut prendre son temps, et puis généralement, il faut envoyer un petit message 48 heures après, 24 heures après, en disant « comment ça va ?» Sauf que moi, je range mon frein quand je lui dis au revoir, et en fait, c'est elle qui casse tous les codes, et elle me dit « Ah, tu fais quoi ce soir? On pourrait se revoir ?» Et je suis encore déstabilisé, ça participe au fait de faire bouger mes lignes, et je lui dis seulement « Bien sûr, ok, pas de problème, allons-y, revoyons-nous. » Et on se revoit le soir même. Quand du coup, je rencontre Jaël et qu'elle me propose de se revoir, elle me dit assez rapidement qu'elle est dans une phase de divorce. Elle me dit elle aussi qu'elle a une vie, bien évidemment, ce qui est tout ça fait normal à nos âges respectifs, mais qu'elle est en plein divorce et que la situation est plus compliquée, qu'elle en pourrait être si en effet elle ne l'était pas. Moi, de mon côté, ça tombe bien, puisqu'aussi j'ai une situation particulière, comme je dis, avec une logistique assez intéressante ou complexifiante, avec ses départs et ses allers-retours à l'étranger, ce qui fait qu'on comprend assez rapidement elle comme moi. C'est pas si simple qu'on l'aimerait, mais pour autant, on ressent vraiment l'envie de passer du temps ensemble. On a envie de passer du temps, et quelle que soit la forme que ça prend, on a envie de se voir, on a envie de bouger. Alors, on a déjà nos enfants, donc ça, c'est à prendre dans l'équation. Mais on n'a pas forcément envie de se dire, tiens, achetons un appart. On n'a pas forcément envie de se dire, tiens, prenons un chien ou genre chose là. Ou on n'a pas d'envie de monter en business. Si c'est plutôt, comment dire, une envie dans le fond. Dans le fond, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de parler, on a envie de communiquer. Et on développe assez rapidement cette idée de pas pareil. Je sais pas comment l'expliquer, hein. J'ai connu plusieurs, ou d'aucuns diraient beaucoup de femmes. Elle a connu plusieurs hommes, elle a eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs vies. Mais là, aujourd'hui, quand je suis là en 2000 à 2021, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous lie, de l'intime, quelque chose qui nous lie du profond, quelque chose qui nous lie, qui est fort, mais qui n'est pas descriptible. Je sais pas l'expliquer, comme si je la connaissais, et on a très souvent cette sensation de s'être déjà vu, sans croire à la réincarnation, mais s'être déjà vu dans une autre vie. Et c'est le seul projet qu'on ait à la rigueur, qui n'est pas concret, mais c'est bien celui-là, c'est passer du temps ensemble. On est en octobre 2021, et Jaël doit subir une intervention chirurgicale qui n'est pas bénigne, qui est courante, qui est maîtrisée, mais qui n'est pas bénigne, à savoir une intervention sur la zone cérébrale, puisqu'elle a un anévrisme cérébral. Elle a vraiment pas de chance avec sa santé, c'est un peu un chat noir. Elle enchaîne depuis pas mal d'années les gros soucis de santé. Et lors d'un contrôle avec donc du coup une IRM, les médecins s'aperçoivent qu'elle a un anévrisme au niveau du cerveau. Donc, une analyse est faite, bénéfice coût, hein, et la décision est prise de faire une intervention, du coup, pour circonscrire cet anévrisme par la pose d'un stent. Et c'est quelque chose quand même qui reste certes maîtrisé, qui se fait régulièrement, mais quand même pas anodin. Donc, on est en octobre 2021 et Jaël est terrorisée à l'idée d'aller subir cette intervention. Hein. Je pense que j'aurais été encore beaucoup plus inquiet et peureux qu'elle à sa place. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle avait grandement peur. Et sa peur principale était de laisser la vie, de mourir sur la table d'opération et jamais ne se réveiller. Donc elle avait prévu cette disposition, elle avait déjà fait dans le passé. Elle était assez au clair avec le principe que la mort fait partie de la vie. Donc on avait déjà parlé des choses, ses dernières volontés, ses éventuellement passations d'informations, les musiques à écouter si jamais il y avait une cérémonie religieuse ou autre. Enfin, voilà, elle essayait de le prendre quand même de manière pragmatique pour pas embêter ceux qui allaient rester, sa famille, son fils et moi. Tout ça pour dire que dans nos échanges, lorsqu'elle me dit, en gros, j'ai peur de mourir et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle précise sa question en me disant, si jamais je ne meurs pas, et là, cette phrase, elle résonne en moi de manière assez forte et elle m'est très douloureuse parce que d'une certaine manière, je me sens responsable de ça, même si c'est pas vrai. Elle m'a dit, pour toi, ça serait quoi le pire qui puisse arriver si jamais c'était pas la mort? Et de manière totalement égoïste, parce que chez moi, comme dans chez pas mal de personnes, le moi parle beaucoup, je lui ai répondu en l'assurant, j'ai dit, de manière très très égoïste, hein, ça serait que tu m'oublies. Et je me revois encore lui répondre, ça serait que tu m'oublies. Du coup, on arrive au jour de l'opération, on est le 5 ou 6 octobre. Et du coup, Jaël est rentré à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et je suis son contact. Je suis la personne qu'elle a désignée comme contact pour faire le lien avec sa famille, sa mère, son fils, ses différents frères et sœurs. Et je suis inquiet. C'est pas plus que d'habitude lorsqu'on a un proche qui subit quelque chose, mais voilà, concerné, inquiet. Et du coup, je tente de la joindre le lendemain matin. Elle venait de subir du coup l'intervention. Tout s'était très bien passé d'après les échanges que j'avais eus avec l'établissement hospitalier. Et le lendemain matin, du coup, je l'appelle. Voilà, je l'appelle et je n'arrive pas à joindre Jaël, donc un peu déçu, mais c'est pas grave. Et je patiente un petit peu au travail. Là, je suis donc au travail et je reçois un appel de la part de la salpêtrière. C'est en fait Jaël qui m'appelle, elle directement. Et en fait, le téléphone sonne et je décroche de manière pas naïve. Je sais pas si c'est le terme, mais je suis là en train de décrocher de manière joyeuse, on peut dire ça. Ravi à l'idée de l'entendre, je lui dis « Coucou chérie, comment tu vas ? Alors, comment ça s'est passé ?» Et là, Jaël, la personne qu'on appelait Jaël, me répond, me dit « Bonjour monsieur. À ce qui paraît, vous êtes mon compagnon ou mon mari, il faut que vous veniez à l'hôpital. » Et là, pendant une demi-seconde dans ma tête, non pas que j'ai envie de l'insulter, mais parce que j'ai encore en écho la discussion qu'on avait la veille ensemble et ma crainte qu'elle m'oublie à son réveil. Et j'ai envie de lui dire « Non mais assez crûment, arrête de déconner, tu te fous de ma gueule. » Sauf que malheureusement, je perçois qu'elle déconne pas. Donc là, tout d'un coup, je me reprends et je lui dis à Jaël « Écoute, pas de souci, ma puce, ma chérie, j'arrive, ne t'inquiète pas, j'arrive. » Et là, je raccroche et j'avoue que je suis un peu sonné. J'arrive à la pitié salpêtrière et je toque à la porte. J'ouvre la porte, je vois Jaël, du coup, dans une chambre seule sur un lit d'hôpital. J'ai l'impression de voir un petit animal complètement apeuré dans le coin d'une cage. Et qui, au fur et à mesure du fait qu'elle me voit ou qu'il me voit, ce petit animal me rapprocher d'il ou elle, prend de plus en plus peur et je me rapproche et je la vois complètement prostrée contre son lit avec les genoux qu'elle remonte vers elle et je lui dis coucou chérie, comment tu vas, avec ce qu'on pourrait appeler une espèce de poker face, parce qu'à l'intérieur je me rends compte qu'elle est réellement là sur le moment en train de ne pas me reconnaître.
Je suis donc là dans sa chambre d'hôpital et je tente de lui parler pour la rassurer, parce que je vois bien qu'elle est complètement effrayée par rapport à ma présence, par rapport à moi, par rapport à ce que je suis censé ressembler ou censé être pour elle. Un mari, un compagnon, quel que soit le terme qu'on utilise, en tout cas, ce sont des choses sur moi qui ne lui parlent pas du tout. J'ai donc un médecin qui est présent, qui est là et qui m'explique que ce sont des états qui peuvent durer de manière temporaire, voire très temporaire, à un très court terme, et que ça devrait sûrement qu'il faut être conscient
de la situation qui n'est que passagère, et du coup être confiant,
et que d'ici quelques heures, je retrouverai, où tu retrouves, c'est pas je, mais c'est elle, j'aime, ma chérie, retrouvera toute sa lucidité et pourra être rassurée dans cette situation-là. Ce qui, c'est rapidement, n'est pas le cas. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas, du coup, je constate que ma compagne a oublié qui elle était.
C'est-à-dire, clairement, c'est une personne qui ne sait pas qui elle est, qui ne sait pas où elle est, qui ne sait pas ce qu'elle a subi, qui ne sait pas ce que représente l'univers dans lequel elle se trouve, qui ne sait pas ce que c'est un hôpital, qui ne sait pas désigner avec leurs mots ce que sont les objets autour d'elle.
Une personne qui sait pour moi parler, qui sait marcher, qui a de l'hygiène, et puis je crois que c'est à peu près tout.
Voilà. Donc sur le moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ne sont plus là.
Je comprends que ma présence devrait déclencher chez elle, ou elle prend conscience que ma présence devrait déclencher là sur le moment des réactions chez elle, et hormis de la peur et de l'angoisse, ça ne déclenche rien d'autre. Donc moi, je fais le choix de quitter la pièce et de la laisser en présence du corps médical, dans son intérêt, mais aussi dans le mien, parce que j'ai besoin à un moment d'accuser le coup. Donc je sors de là et je m'effondre, pas physiquement, mais psychologiquement, dans le couloir, et je profite de ce moment-là pour lâcher les vannes rapidement, intensément, et en sachant que ça serait passager, parce qu'il faut être sur le pont, et que ça tangue, et qu'il faut être là pour les siens. Elle fait partie des miens, donc il faut que je sois là pour elle.
Donc très rapidement, je fais le lien et je fais le contact avec sa mère, que j'appelle pour lui expliquer la situation, tout en tentant de la préserver elle aussi, dans un monde de ne pas l'inquiéter plus que d'autres mesures, puisqu'elle n'est pas sur place, et de préparer l'avenue de ses proches qui étaient concernés et inquiets de son état de santé. Je passe la première soirée en grande partie avec elle pour tenter de la rassurer. Je rentre dormir à la maison les soirs, bien évidemment, et je reviens les jours suivants, et je constate que son état physiologique, psychologique ne s'est pas amélioré. Elle sait toujours pas qui elle est. Elle n'a toujours pas conscience du monde dans lequel elle vit. Puis surtout, elle a oublié, c'est ça qui est important, je précise, elle a oublié l'intégralité des souvenirs qui composaient son existence avant cette politique fichue intervention. D'une certaine manière, cette intervention lui a peut-être sauvé la vie, par rapport au risque représenté la rupture d'un aneurysme cérébral. Mais elle lui a, sur le moment, et a pris ses 40 années d'expérience, de relations, d'émotions, de sentiments pour sa mère, son fils, sa fille, son travail, moi. Et donc, moi, je tente, lors de mes journées de passage à l'hôpital, qui se déroule par ma présence et des échanges, comme en étant une espèce de forme de soutien et d'accompagnement, je vais le dire ça comme ça, parce que clairement, c'est une situation qui est totalement extraordinaire, pour laquelle il n'existe aucun mode d'emploi. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je ne sais pas faire. Et donc, je suis dans cette situation de faire le lien avec le corps médical, de faire le lien avec sa famille, de faire le lien avec ses proches qui viennent la voir. Et je tente de rassurer tout le monde. Quand j'obtiens, ou quand plutôt elle obtient l'autorisation de quitter l'hôpital après signature de décharge, nous sortons de l'hôpital, on se dirige vers son appartement, puisqu'à cette époque, nous avions la chance d'avoir deux appartements. Et nous prenons assez rapidement avec sa sœur qui était là à ce moment-là, la décision de l'accueillir chez moi. C'est impossible de la laisser seule, elle n'a pas connaissance de... Parce qu'il y a un feu rouge, une voiture qui traverse, l'électricité, le feu, le gaz, tout ce que nous maîtrisons même aujourd'hui, mais qui représente quand même un danger certain, dans certains dangers. J'accueille Gaël qui, contraint forcé, je dirais comme ça, se retrouve un peu poussé, comme dans un mariage forcé avec moi, à devoir aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et dans un monde qui lui fait peur. Et ce monde-là, je vous avoue, moi aussi, sur moi, cette situation me faisait très peur. Parce que je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas comment l'accueillir, je ne sais pas quoi lui dire. Et j'ai des réflexes qui sont des réflexes de quelqu'un qui est uni sur un mot pendant 3 ans avec une personne qui est là pour moi, mais qui n'est plus là. Donc j'ai des réflexes de tendresse, des poussées de passion, d'envie d'embrassade, d'accolade, qui au contraire font peur à l'autre. J'accepte de l'avoir reculé, j'accepte moi de parler vers elle et j'accepte de me dire « tu dois fonctionner comme... » c'est très bizarre à dire, mais je dois fonctionner comme si j'avais un enfant qui était placé chez moi. Un enfant qui était dans une situation catastrophique, socialement ou humaine, totalement apeuré. Et je recueille un enfant et je me dois en quelque sorte non pas lui sauver la vie parce que c'est un peu fort, mais je dois tout faire pour le protéger. » Ce qui est dur là pour moi avec le fait de revivre avec elle, parce que cette situation est dramatique pour elle, elle est horrible, mais pour moi elle est pas facile, c'est de faire fi de la douleur qui est la mienne, c'est vraiment de m'oublier complètement, c'est de tout faire pour la préserver, et ça veut dire m'oublier en tant que compagnon, en tant que amant, et je prends un rôle qui ne devrait pas être mon rôle dans cette relation comme dans n'importe quelle relation. Je deviens l'assistant social, je deviens le médico-social, je deviens le père, je deviens le castrateur, je deviens celui qui dit à Kappa, ne fais pas. Je m'oublie en tant qu'homme et je m'oublie en tant que Clément d'amant parce que c'est pas ça dont elle a besoin actuellement et c'est pas ce que je peux lui apporter de manière bénéfique. Donc je suis sur quelque chose de complètement nouveau et je ne suis pas dans une relation de couple. Je suis dans une relation avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'est proche, et quelqu'un que je ne peux pas, je ne voudrais pas et que je n'abandonnerai pas. Je suis persuadé que ce que j'ai vécu par le passé, que l'éloignement de mes enfants a été quelque chose de plutôt positif dans un certain côté. Il faut toujours tenter de positiver, mais moi ce que j'en retiens, c'est ma capacité à affronter une certaine adversité. Je crois que je peux m'appuyer là-dessus, sur cette résistance, sur cette envie, sur cette volonté et cette résilience pour faire front par rapport à cette épreuve et ce drame qui touche ma chérie, qui touche ma compagne, et qui, par effet de bande, forcément, rejaillit sur moi. Et puis aussi, je vais le dire assez crûment, j'ai pas le choix, en fait. Je me retrouve un peu seul dans tout ça. C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas là, liés aux abonnés absents. Le camp médical est défaillant ou démissionnaire. Et pendant une période courte, même sa famille n'est pas là. C'est trop dur pour certains. Certains ont du mal à comprendre, du mal à saisir, mettent en doute, ou surtout ont trop mal, parce qu'ils n'ont plus leur fille, leur sœur. Et dans ces cas-là, certains font pas de côté. Ils doivent font plus qu'un pas de côté et sont aux abonnés absents totalement. Donc, à ce moment-là, moi, je suis pas croyant dans quelque forme de religion, mais j'ai choisi Jaël pour le meilleur et pour le pire. Et là, on est dans le pire. Donc, je l'abandonne pas. J'ai pas le choix. À ce moment-là, je me pose la question de savoir si c'est vivable, si c'est surmontable, si c'est possible pour moi d'oublier mes besoins, d'oublier ce dont j'ai envie, d'oublier ce à quoi j'aspire, si c'est possible de ne pas avoir quelque chose de léger, si c'est possible d'être dans la douleur. Oui, je suis dans la douleur par rapport à cette perte et cette forme de deuil que je dois faire de la femme que j'ai aimée pendant 3 ans. Je me rends compte assez vite que c'est partir, ça serait pas moi. C'est-à-dire que j'ai des défauts, comme beaucoup de personnes, mais j'ai quelques qualités. Et parmi les qualités que j'ai, c'est que je veux dire en rigolant, certains disent un gars sûr. Voilà. Donc ça, je fais le choix de rester. Je fais le choix de rester et je me le dis assez rapidement. Je ne sais pas ce qu'il en sortira pour moi, ce qu'il en ressortira pour nous. Je ne me dis pas je fais ça pour nous, je fais ça pour notre couple. Ben, je fais ça parce que cette femme, je l'ai aimée. Et si j'ai la possibilité de l'aider à ce qu'elle se reconstruise ou à ce qu'elle se construise différemment, je le ferai. Et ce, quelle que soit l'issue pour nous d'un couple ou pas de couple, je le ferai quand même. Ce qui m'aide beaucoup, c'est il y a 2 choses. C'est que tout d'abord, c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup de compétences intellectuelles, qui est, je trouve, brillante et intelligente et qui n'a pas perdu ça, heureusement pour elle, dans ce drame-là, et qui passe son temps à s'instruire, à lire, à essayer de comprendre, et qui a une capacité d'apprentissage assez énorme. Donc on va dire, en termes de connaissances sur le monde, elle apprend beaucoup. Alors, tout n'est pas vérité dans Wikipédia, mais elle passe 5, 6, 7, 8, 10 heures, 12 heures par jour à lire Wikipédia, tel que le personnage de Guigou le fait dans le 5e élément, elle essaie d'apprendre un peu le monde, comme ça. Donc ça, c'est la première chose qui m'aide. C'est elle-même, sa force, qu'elle arrive à trouver malgré sa jeunesse, je dirais ça comme ça. Et puis l'autre chose qui, moi, va m'aider, va nous aider, c'est qu'en fait, elle a besoin de fuir. Elle a besoin de fuir Paris, elle a besoin de fuir cet endroit, elle a besoin de fuir tout ce qui est censé lui rappeler sa vie d'avant, elle a besoin de fuir tout ce qui est censé lui rappeler ses amis, elle a besoin de fuir tout ce qui est censé lui rappeler un souvenir, un coin de rue, une odeur, un bar, une rencontre, tout ça, elle n'en peut plus. Donc en fait, elle a besoin de partir pour se réinventer ailleurs. Elle développe cette envie de quitter Paris, de fuir et fuir pour Marseille. Donc, elle souhaite organiser son déménagement. Je travaille sur son déménagement avec elle. Et du coup, je prends camion, loue un camion. Elle mobilise les amis qui sont restés, les fidèles, les gars sûrs et les femmes sûres qui sont restées autour d'elle là, aujourd'hui. Et puis, on prend un camion, on charge le camion et nous partons en mai 2022 pour Marseille puisqu'elle quitte Paris. Elle va découvrir la belle cité phocéenne et je l'accompagne malgré moi. À mon cours défendant, parce que j'ai pas envie qu'elle me quitte en quelque sorte une deuxième fois, mais c'est un peu comme, c'est pas un peu comme un papa, il faut que les enfants s'en aillent. Et j'ai une facette papa qui est beaucoup marquée avec elle, je le dis, et peu compagnon. Dans ce moment-là, je ne me rends pas compte, mais c'est plutôt bien qu'il faut qu'elle s'en aille, qu'elle se réinvente et qu'elle aille au bout de cette fuite et ce besoin d'oxygène. Et notamment cet éloignement de ma personne. Donc elle part au printemps 2022 à Marseille. Dans une ville que j'affectionne tout particulièrement, mais elle part dans un endroit tout seul, qui représente encore quelque chose de beau, mais aussi d'hostile et de dangereux, non pas propre à la ville, mais le fait de se retrouver en société, avec si peu d'expérience, et avec surtout ce qui caractérise un enfant, parce que c'est une femme, c'est une enveloppe d'une adulte qui a 45 ans passés ou 40 ans passés, mais avec un cœur d'enfant et des émotions d'enfant, et totalement désinhibé et particulièrement fragile, et sensible et que j'imagine à la merci et à 900 km de moi et qui me tord le cœur d'inquiétude et de douleur. À ce moment-là, je prends vraiment conscience en fait qu'on n'est pas forcément ensemble. C'est-à-dire que moi, je me dis qu'on est en couple, mais pas vraiment en couple. Et donc pendant quelques mois, en fait, on est géographiquement loin, on est matériellement très distant, mais on est quand même temporellement et psychologiquement proche parce qu'on s'appelle tous les jours. Je redescends régulièrement à Marseille pour la voir et parce qu'elle me manque, et la réciproque est vraie. Et pendant quelques mois d'aller-retour comme ça, on reconstruit quelque chose, on reconstruit une forme de relation. Je ne sais pas si c'est amoureux au sens passionnel, mais en tout cas, nous sommes en train de reconstruire une relation de tendresse, de complicité, qui moi me nourrit, qui je crois lui fait du bien à elle aussi. Et on avance, on tâtonne comme ça jusqu'à ce que là maintenant, nous sommes quelques mois plus tard, je crois que 6 mois viennent de passer, je suis en décembre 2022 et je me décide à sauter le grand pas, quitter Paris, quitter la capitale. Et après 18 ans passés là-haut, je ressens depuis quelques temps l'envie de retourner à Marseille, retourner dans cette ville qui me manquait, retourner auprès de ma famille, puisque j'ai encore la chance d'avoir 3 grands-parents, mes parents, mes tantes, des oncles, 4 frères et sœurs, et puis surtout la femme que j'ai perdue qui est là et que j'ai pas envie de reperdre une deuxième fois. Je sens depuis quelques semaines qu'elle est dans le besoin et dans le manque, mais pas un besoin logistique, pas un besoin d'assurance, pas un besoin de contrôle, mais un besoin de moi. De moi en tant que personne qui fait partie de son quotidien et je crois quelque chose de sentiment d'une forme d'amour. Donc je saute le pas. Voilà, en décembre, je saute le pas. J'ai fait une mobilité professionnelle. Et puis je rentre à Marseille. Et puis on s'installe ensemble à Marseille, on prend l'appart. Et je peux considérer, là, en décembre 2022, qu'on se met en couple. Qu'on se remet en couple, je ne sais pas, mais que le couple commence à partir de là, aucune forme de couple recommence à partir de là, en décembre 2022, après quelques mois de forte interruption. Certains pourraient dire que ce sont de nouvelles bases pour nous, qu'on réécrit quelque chose, que c'est totalement neuf. C'est en partie vrai. C'est-à-dire que c'est totalement neuf pour elle, c'est totalement nouveau pour elle, c'est totalement inédit pour elle, mais c'est pour moi, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire que chez elle, elle a un besoin que je constate très vite, qui est de connaître les premières fois, les premiers émois, les premiers rendez-vous, les premiers dîners ici, toutes ces premières qui font qu'à un moment, on a l'excitation, quoi, tout ce qu'on a pu vivre par le passé ou qu'on a pu avoir étant adolescent ou jeune adulte, tout ça, elle n'a pas. Moi, je l'ai. Donc, il y a un gros différentiel qui est là, qui est présent et avec lequel il faut faire avec. Et puis, ce nouveau départ pour moi, il m'est difficile parce que, là, je parle de moi, il y a une forme de schizophrénie. C'est-à-dire que je suis contraint, si je veux construire quelque chose avec Jaël, de faire fi du passé. Je ne vais pas pouvoir lui parler de tel moment, tel endroit, monter des photos, ça c'est des choses que je me refuse à faire puisque je sais que c'est pour lui pas possible. Et surtout pour moi, ce qui est difficile, c'est la schizophrénie d'oublier mon référentiel. C'est-à-dire que quand vous avez des discussions, des échanges avec des gens proches, à qui plus avec votre partenaire, et que vous voulez argumenter, que vous voulez vous appuyer sur des choses, vous avez parfois des émotions qui ressortent, qui sont dues à ce que vous avez vécu avec elle. Je sais pas, moi, vous avez un grief à formuler, vous avez envie de mettre en lumière quelque chose de bon, je peux pas m'appuyer dessus. Donc oui, c'est une opportunité de partir, de reconstruire quelque chose, et allons-y, on écrase, fresh start, on repart. Ce qui est perturbant, mais qui est bien aussi à la fois, c'est de construire quelque chose de différent. C'est-à-dire que ce n'est plus la même femme totalement, c'est plus totalement la personne que j'ai connue. Je retrouve des fondations, je retrouve des traits de caractère, je retrouve certaines réactions, mais une grande partie n'est plus là. L'idée, c'est pas de retomber amoureuse de la personne précédemment, mais je pense surtout à ce que vous en dites que je vis. Et c'est en ça que je dis que dans toute chose grave ou délicate, il y a quelque chose d'utile ou de beau, c'est que ma notion de l'amour, elle a évolué. Et je crois que aujourd'hui, j'aime plus profondément, avec plus de tolérance, plus de bienveillance, et beaucoup plus gratuitement. Donc je l'aime pas plus, je l'aime différemment, cette femme-là. Aujourd'hui, on est en mars 2024, avec Jaël. Nous sommes toujours sur Marseille, on est toujours dans le 8e arrondissement de Marseille. On va déménager sous peu, on va rester pas loin, on va déménager à quelques centaines de mètres. On a toujours plaisir, on a toujours envie de vivre ensemble, on a toujours envie d'apprendre, de découvrir, de rigoler, de se chamailler, de se disputer, de se réconcilier, de rire, de rigoler, de faire un maximum de chemin, de bout de chemin ensemble. J'ai aucune idée de ce vers quoi on tend, de ce là où va nous mener. Et je crois même qu'aujourd'hui, même si nos chemins se séparent, ce qui n'est pas le cas, ce que je ne veux pas et ce qui peut-être n'arrivera pas, mais en tout cas aujourd'hui, L'expérience que je retiendrai de ce qu'on a vécu, de son drame, de l'avoir perdu une première fois, c'est que si jamais la vie faisait, nous n'étions plus un couple, au sens de ce mot-là, je sais très bien que je ferai toujours partie de sa vie et qu'elle fera toujours partie de la mienne. C'est une des personnes les plus importantes, c'est une des personnes les plus extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. Je suis fan de Joël et je resterai fan de Joël. C'est un être extraordinaire, je suis fier d'elle. Et si elle écoute ce podcast, j'ai envie de lui dire que je l'aime profondément et que je la remercie.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.